Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Un drame de plus sur les routes togolaises. Un jeune homme a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessés après qu'un conteneur mâle ou non fixé sur un titan s'est détaché et s'est écrasé. Alors sur eux, le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, exprime son indignation et sa consternation face à cet accident tragique survenu ce samedi 8 février 2025 à Togblé sur la nationale numéro 1. Selon le MMLK, ce drame relance une fois encore le débat sur la sécurité des transports de marchandises lourdes au Togo. Pourquoi un tel accident se produit-il encore alors qu'il aurait pu être évité par des mesures de contrôle skit? Comment se fait-il qu'un camion transportant un conteneur mal arrimé puisse circuler librement sur les routes du pays sans qu'aucun contrôle ne soit effectué? Jusqu'à quand les citoyens togolais devront-ils payer de leur vie l'irresponsabilité et la négligence des autorités en charge de la réglementation du transport routier? Ce sont là les quelques questions que se pose le mouvement dirigé par Pasteur Edo Komi. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 10 février 2025. Bienvenue au Club. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays et aussi à l'heure du continent africain, sans oublier le monde entier. Et pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Betomega est à la mise en onde, Jérôme Dakoutia assure la mise en ligne, je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amého, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Merci aussi à vous tous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio. L'équipe de lundi est déjà en place. Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour à mon ami personnel, bonjour également à Uriel et les techniciens qui sont de l'autre côté. L'autre qui est aujourd'hui en multiples couleurs, l'autre aussi qui est en jogging ce matin. J'espère que la semaine s'est très bien passée et vivement que la semaine que nous entamons soit une semaine de grâce pleine de joie et de bonheur pour nous.
Et justement,
ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont actuellement sur les des hôpitaux, ceux qui nous écoutent dans leur dans les bureaux, dans les taxis, un peu partout, que ce soit dans la diaspora et un peu partout dans le monde. Je souhaite à chacun, à chacune, une très belle semaine et un phénomène, Pascal, oui, que je voudrais essayer de dénoncer ce matin. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Avant, excusez-moi d'utiliser ce terme, comme un chant l'a dit, c'est les femmes qui quittaient les foyers. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que c'est les hommes qui quittent les foyers, laissent les femmes.
Ah bon, c'est ce constat qui est fait?
Oui, c'est ce constat qui est fait. Les hommes fuient actuellement les foyers et pour laisser les femmes et les enfants. Et ce phénomène-là, il faut quand même qu'on essaie de dénoncer ce phénomène. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est parce que la vie est un peu difficile? Est-ce que les parents, les hommes n'arrivent plus à subvenir aux besoins des femmes et des enfants? Et qu'ils fuient les domiciles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Sincèrement, que on puisse voir ce phénomène et inviter une fois encore les belles familles. C'est-à-dire que toi, une maman ou un papa, quand ton fils quitte sa femme et te rejoint à la maison, il faut quand même se poser des questions. Mmh. Ce que nous savons, c'est les femmes souvent qui quittent, mais le constat aujourd'hui, c'est les hommes qui quittent les foyers pour rejoindre leurs parents à la maison. Sincèrement.
Pour rejoindre leurs parents à la maison?
Oui, sincèrement, je voudrais inviter les parents. Lorsque votre enfant revient à la maison, et parce qu'il a quitté sa femme, il faut lui poser des questions. qu'est-ce qui se passe réellement que c'est l'homme qui quitte la femme et pour aller rejoindre les parents. Donc, sincèrement, que ce phénomène-là, on puisse revoir.
Mais comme je l'ai dit, ça en dit non. Ça dit des hommes qui quittent le foyer pour rejoindre leurs parents. C'est vrai qu'il doit y avoir un débat.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Si c'est un problème, comme on sait que la vie est un peu difficile actuellement, si c'est ça, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Hein, quitter sa femme et ses
enfants. Ce n'est même pas une raison.
Justement, oui. Ce n'est pas du tout une raison. Peut-être qu'il y a une autre raison, peut-être cachée quelque part. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, il ne faudrait pas que l'homme abandonne sa femme et ses enfants pour aller rejoindre son papa et sa maman.
D'accord,
ça n'a pas de sens.
Merci beaucoup, Jacques. Léon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Et jusqu'à preuve de contraire, toi tu es toujours au foyer.
Au foyer, de toutes les façons, je ne sais pas si ce que dénonce Jacques a vraiment un fondement, mais bon, il va nous dire plus dans les détails. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ou bien.
C'est ça, c'est ce que l'Écriture sainte dit.
Oui, maintenant, il n'y a pas eu de précision pour dire si c'est la femme qui ira vers l'homme ou c'est l'homme qui ira vers la femme. Bon, si la société trouve que c'est un phénomène à corriger, tant mieux, on corrige. Mais pour le reste, bon, on fait avec. Sinon, je suis là, c'est ma femme qui m'a rejoint. Et puis bon, on est là, une très belle famille. Et je suis
très heureux.
Nous sommes très heureux. Ce matin, je voulais dire un bonjour particulier à un auditeur de Canal FM que j'ai surpris quelque part, qui ne m'a même pas reconnu. Je savais que c'est par ici, je vais le lui dire. Donc, le vendredi, à partir de 13h, il prêchait son évangile. Et à partir de 13h jusqu'à ce que moi je ne reparte, aux environs de 15h, il était là avec sa femme en train de continuer par prêcher. Peut-être qu'il va appeler Évangéliste Senghor. Puisqu'il s'est présenté, j'ai découvert que c'était lui vraiment l'auditeur fidèle de Canal FM. Lui seul, c'est là où il prêchait. C'est un endroit très délicat. S'il veut détailler, il va détailler.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Pas du tout.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne vais pas bien. Je ne sais pas si vous allez me réserver un carton pour la fin. Autrement, je veux dessiner un carton de rougissant à la CET. Là, on a été informé qu'il y aura des coupures. Ce n'est pas encore un problème. On supporte. Mais quand pour des cash-power qui ont des problèmes, on appelle la CET qui vous fait comprendre qu'elle est disponible 24 heures sur 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais que de midi jusqu'au lendemain, alors que la steward vous promet que l'équipe de dépannage va arriver dans les heures qui suivent, il y a de quoi m'horripiler. Parce que vous allez me demander si j'ai pu me doucher avant de venir en studio ce matin. Puisque le forage que nous utilisons
fonctionne à base du courant.
Tout à fait. Nous avons pris la peine de les contacter. Ce n'est même pas un appel gratuit. Pas trois fois j'ai appelé. Ils me rassuraient qu'ils vont arriver. Alors que je revenais du terrain. J'ai joué, donc je devais me doucher. J'ai attendu la société jusqu'à ce petit matin. Et pourtant, ils m'ont donné les coordonnées. J'ai pris le temps de les satisfaire. Mais ils sont devenus des ovnis. Il y a de quoi interpeller ceux qui disent fournir le courant, mais qui perçoivent leur paye à la fin du mois, tout en fournissant un service, pas médiocre, mais franchement, je ne suis pas gay.
D'accord.
Je ne peux pas sauter ce que vient de dire Jacques.
Oui.
Parlant d'homme qui fuit le foyer, c'est possible pour deux situations, deux raisons.
Ah bon?
Soit
lesquels?
Le degré de la femme, le degré d'impolitesse de la femme est monté à un seuil non négociable. Et pour ne pas créer de soucis à sa famille, l'homme prend ses clics et claques pour s'éloigner. L'autre côté, c'est ce qu'il a pointé du doigt, la cherté de la vie. Parce que c'est vrai que quand on vient, on parle, certains pensent que pour nos cas, c'est différent. Mais la survivance au quotidien, c'est devenu un combat de tous les jours. Donc, il arrive à certains moments où certains hommes, n'y pouvant plus, essaient de disparaître. On dirait des Chuck Norris, les portées disparues. Donc, disparaître, c'est pareil, ce n'est pas impossible. Voilà.
D'accord.
Le quatrième confrère,
il a la solution.
Je voudrais justement que peut-être qu'il a la solution. Il a la solution puisque c'est un pasteur. Docteur Didier, avant de le saluer, je voudrais bien sûr quand même le saluer, surtout avec ceci.
Problema wenye mau na wajibu ble ani na nagba magba ton yemi lagba na magba tokble tokbea o balik ble bubwa o wenye mau. Now I look who do at you at your book, man. To Kuno, Sianu, Bafa,
merci beaucoup, Michel, pour ce morceau. Et je sais que l'auteur, à l'heure de ce morceau, se reconnaît très bien. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio.
Alors, et dans ce morceau que nous venons d'écouter, vous magnifiez le nom, la grandeur de l'Éternel des armées, et cette louange que vous êtes en train de faire, et je pense quand même que nous aurons une occasion propice pour le faire le dimanche prochain.
Le dimanche prochain, 16 février, à partir de 15h dans la grande salle de l'Agora Senghor de Lomé. Donc, nous aurons l'opportunité de vivre l'événement que j'organise donc avec le concours de mes amis, de mon staff, des gens qui travaillent avec moi, de mon équipe et de quelques soutiens, notamment le parrain Jacques Diakouti ici présent. Un concert événement donc pour lequel nous invitons tout le monde, tous ceux qui n'ont jamais vu un journaliste qui est pasteur, qui est chanteur également, presté à venir.
Et là aussi, nombreux. C'est une grâce, hein, Didier.
Oui, vous savez, pour faire cette histoire-là, pour se décider ça, m'a pris beaucoup d'années de réflexion, beaucoup d'années d'hésitation aussi. Mais au final, je ne sais pas d'où est-ce que j'ai eu ce courage de pouvoir essayer d'assumer tous mes profils. Être journaliste, ne pas se cacher en tant que journaliste, être homme de Dieu, ne pas se cacher en tant que tel, et également essayer de développer les talents que l'Éternel a mis en moi. Et donc, aujourd'hui, nous y sommes, on n'a plus besoin de nous cacher. Il y a ce concert qui nous attend le dimanche prochain. Et je crois que ça va être vraiment un événement, comme le thème le dit. Et ça va bénir beaucoup de gens, beaucoup de Togolais, beaucoup de personnes. Venez nombreux, nous allons élever nos voix. En même temps que nous louerons le Seigneur, que nous allons l'adorer, nous allons également lever des clameurs à la gloire de notre pays pour que l'Éternel puisse agir. Chacun pourra prier à sa façon pour la mère patrie le jour-là.
D'accord. Disais, le bien, c'est que vous ne serez pas seul sur scène, puisqu'il y a beaucoup d'artistes togolais, bien sûr, qui ont été annoncés sur cette scène qui aura lieu, bien sûr, le dimanche prochain.
Qui ont été annoncés, qui ont confirmé leur participation, des grands noms de la musique gospel au Togo. Donc, si des gens avaient besoin encore d'une preuve, c'est pour leur dire que ce que nous faisons, c'est du sérieux, et des gens du secteur ont compris que ce que nous faisons, c'est sérieux, c'est important, et ils ont confirmé leur participation à notre côté à ce concert-là. Donc on aura l'évangéliste Paul Mouziayovo, qu'on ne présente plus. Il y aura le chanteur Maouto Tété, qu'on ne présentera plus. On aura le chanteur Vénigné, qu'on ne présentera plus. Donc on aura la sœur Merveille qui sera là. On aura Nicole Shine, on aura Chris Lom, on aura Nick Overflow également. Donc des noms très connus dans le milieu gospel, sinon de la musique au Togo, donc qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet, sur cet événement, le premier d'ailleurs que j'organise de façon publique. Et donc, il n'y a pas de raison donc de rater cet événement phare qui aura lieu donc le dimanche prochain à Lomé, à Agora Senghor.
D'accord. Nous sommes tous conviés alors à cet événement, ce grand événement même d'ailleurs que vous organisez déjà le dimanche prochain, le 16 bien sûr, à Agora Senghor.
Oui, oui, tout le monde est invité, surtout que l'entrée est libre et gratuite. Donc l'essentiel c'est de s'amener déjà dans l'enceinte de l'Agora Senghor.
C'est-à-dire
donc,
votre présence
là, c'est la présence qui compte, venez, et donc il n'y aura pas d'empêchement pour entrer dans la salle, pour participer à cet événement. Donc je formule ici l'invitation officielle à tous mes amis, camarades, collègues, journalistes de venir là, peut-être que d'autres trouveront là un moyen également de se lancer dans d'autres secteurs, pas forcément dans la musique, mais dans d'autres choses où les gens pensent que les journalistes ne peuvent pas exceller. Pourquoi pas des gens qui trouveront leur motivation. Les Godson, par exemple, pour être candidat prochainement aux élections municipales, en d'autres, voilà. Des gens trouveront leur motivation certainement, et j'invite les amis journalistes, tout le corps du Christ qui est à l'écoute, je les invite également à participer. D'autres personnes qui voudraient bien, juste pour leur divertissement, voir comment est-ce que un journaliste chante, un journaliste est pasteur, comment est-ce que, voilà, vous aimez la bonne sonorité, venez, vous ne serez pas déçus, parce que le contenu est bien plaisant et le contenu sera véritablement impactant.
D'accord, le contenu sera véritablement impactant. Je sais que Uriel a quelque chose à vous dire, mais je voudrais quand même vous poser cette question. D'abord, c'est vrai que vous insistez sur le fait que les gens doivent venir pour voir comment est-ce qu'un journaliste doit être, enfin, un journaliste est pasteur, un journaliste est également chantre. C'est vrai que les journalistes sont connus en tant que des êtres très critiques à l'égard d'un certain nombre de choses, et surtout même en matière alors de religion. Mais moi je voudrais savoir, disiez, comment êtes-vous arrivé là? Parce que on se dit, mais écoutez, par rapport au journaliste, le travail du journaliste, et pour ce qui concerne même d'ailleurs le travail également des pasteurs, est-ce qu'il y a vraiment de compatibilité?
Ben déjà, est-ce qu'il y a compatibilité? Bon, on pourra répondre. Chacun pourra trouver les moyens de répondre. Surtout que chaque être humain croit en quelque chose. La compatibilité partira de la croyance des uns et des autres. C'est comme tu me demanderas est-ce que c'est compatible un journaliste qui est togbé, qu'on a vu. On en voit aujourd'hui dans la corporation des journalistes qui ne cachent pas être des hounos, des choses. Donc, est-ce qu'il y a de la compatibilité? Donc, tout part de la croyance des uns et des autres. Donc, moi, je crois en un seul Dieu, en un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, si vous voulez. Et donc, il m'a demandé de le servir. Je n'ai d'ailleurs pas le choix, autre choix par rapport à ça. Donc, je me suis engagé à le servir tel qu'il me l'a demandé. Et donc, au-delà de ça, je fais un travail, une profession. J'ai été à l'école, j'ai été formé à une profession qui est le journalisme. Je l'exerce également. Donc, de l'autre côté, je suis pasteur. Ici, je suis journaliste. Et donc, pour moi, il n'y a pas... il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a aucun problème d'ailleurs. Donc tout le monde va servir dans d'autres cadres à quelque chose, un Dieu, un être suprême. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Oui, on peut être journaliste et pasteur, on peut être journaliste, être homme politique, on peut être journaliste écrivain, on peut être journaliste artiste, journaliste footballeur, journaliste, voilà, toute autre chose, tout autre talent que Dieu a mis en toi, tu peux l'être. Malheureusement, Godson a raté sa vocation d'être un bon footballeur, un bon épervier pour le Togo, parce que il a consacré le reste du temps au journalisme, mais il aurait pu continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, il aurait peut-être plus de millions.
D'accord. Merci beaucoup. Le rendez-vous, tel que vous l'avez dit, c'est le dimanche prochain à partir de... Enfin, le 16, bien sûr, à partir de 14h30, c'est bien ça?
Exactement, d'accord. À partir de 14h30, 15h, nous démarrons.
Alors, je vais juste répondre à la dernière question que vous lui avez posée. Il est journaliste, il est chanteur, il est pasteur. Est-ce qu'on ne trouve pas d'incompatibilité? J'ai dit non, mais je prends pour facteur. Lui, il a dit, on peut être journaliste, joueur, footballeur, journaliste, agriculteur, mais je prends pour facteur homme de Dieu, pasteur qu'il soit ou autre chose. On peut être pasteur journaliste, pasteur agronome, pasteur footballeur. C'est-à-dire que pour mettre au centre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le journalisme, la déontologie, notre déontologie n'exclut pas la crainte de Dieu. Tout métier
sincère, plutôt c'est le commencement même de la
sagesse. C'est ça, c'est justement tout service ou si vous voulez tout métier censé rendre service à l'humain doit se baser sur la crainte de Dieu. Vous avez un médecin, il doit travailler sur la crainte de Dieu. Vous êtes au volant de votre véhicule, vous roulez dans la crainte de Dieu. Actuellement là où vous êtes, amen. Vous vous exprimez dans la crainte de Dieu. Vous ne vous mettez pas à votre micro pour insulter n'importe qui. C'est la crainte de Dieu. Donc, moi, je dirais plutôt, c'est pourquoi les catholiques ont créé le laïcat, je dirais plutôt que, quel que soit ce que nous sommes, nous devons nous baser sur le livre de Dieu, qu'il soit le Coran, qu'il soit la Bible, pour travailler toujours dans la crainte de Dieu. Je pense que c'est ce que Didier fait. Chaque jour, et il doit inspirer. Donc, félicitations, c'est une fierté. Une fois encore, c'est une très grande fierté pour notre corporation et pour tous les Togolais de voir un fils sortir. On connaît les difficultés. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas vécu les difficultés comme moi, mais il s'est battu quand même. Couvé Lomé, c'est pas trop loin comme Palgou Lomé, mais il s'est battu. Il est dans beaucoup de choses qui émerveillent. Nous serons là le dimanche.
Nous serons là. Ouais, parce que je vois déjà là. L'invitation.
Oui,
chacun a déjà son invitation. Le parrain aussi là, puisque c'est la première des personnes à recevoir l'invitation. Jacques.
Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Que dimanche nous puissions soutenir notre confrère rapport à ce concert. Et l'essentiel, il a si bien dit. Il a dit que ce regroupement, c'est d'abord pour rendre grâce à Dieu, parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, sans la main de Dieu, nous ne pourrons pas progresser, nous ne pourrons pas aller loin. Si certains au niveau de ce plateau sont devenus grand-papa, c'est grâce à Dieu. Donc, ce sera l'occasion qu'il amène son fiston et sa maman pour venir rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis qu'il soit papy aujourd'hui. Et c'est vraiment une grâce.
D'accord,
donc, j'invite les uns et les autres à venir effectivement célébrer Dieu le dimanche prochain.
D'accord, merci beaucoup. Papy, vous serez là. Je veux bien parler alors de Gosson.
C'était pas prévu, mais non pas seulement pour surprendre Jacques, mais pour faire plaisir à ma petite famille.
Oui.
Je pense faire le déplacement.
D'accord, c'est très important. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Nous ferons tous ensemble le déplacement le dimanche prochain pour être avec notre confrère. Et également, nous lançons l'appel à tout le monde, hein, tous ceux qui veulent justement rendre grâce à Dieu. Le dimanche prochain, nous serons ensemble à Agora Senghor pour ce tas de reconnaissance à Dieu. Alors, nous quittons le sujet. On aborde notre premier sujet. Je l'évoquais en début d'émission. Et surtout dans mes mots introductifs, Ulel, c'est vrai qu'il y a un drame de plus, hein, bien sûr, sur les routes togolaises. Et ça a été annoncé, c'est le mouvement Martin Luther King qui revenait sur le sujet. Un jeune homme a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessés après qu'un conteneur mal ou non fixé, sur un titan s'est détaché et s'est écrasé sur eux. Je pense quand même que, ça c'est un encore en quelque sorte un deuil qui frappe encore des familles.
Pourquoi en quelque sorte c'est un deuil de plus? Quelqu'un est décédé, d'autres sont blessés, ça ne fait la joie de personne, ça ne crée en personne de l'humour ni de la prospérité. C'est vraiment une triste nouvelle et la question que moi je me pose toujours, c'est comment ça se passe au point de départ de ces camions chargés de conteneurs. Ce n'est pas la première fois qu'un conteneur tombe, chute sur un passager qui meurt. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, si je ne me trompe, sur la route nationale numéro 2, Lomé, Aného, il y avait un conteneur qui avait écrasé une jeune dame aussi sur sa moto comme ça. Ce n'est pas guerre. Comment ça se passe? Lorsqu'on sensibilise les propriétaires des gros porteurs, lorsque le travail se fait au niveau du port autonome de Lomé. Je ne sais pas quand un camion, un Titan, veut charger des conteneurs vides ou des conteneurs pleins. Est-ce qu'il y a une vérification, est-ce qu'il y a un contrôle de la part d'un service dédié pour la cause avant que ces camions ne prennent la route, ou bien chacun est libre de mettre ce qu'il veut sur sa remorque et en cours de route, il peut écraser qui il veut. Aujourd'hui, on peut dire qu'on va mettre en prison le conducteur, mais ça ne va jamais ramener celui qui est décédé, ça ne va jamais soigner ceux qui sont blessés. Ça veut dire qu'il y a des choses, apparemment, on s'amuse un peu avec. Des fois, quand moi, je veux dépasser un Titan, il y en a un. Hein, toujours, vous le voyez, hein, les conteneurs ne sont pas ficelés. Ils ne sont pas scellés. Tu veux dépasser un Titan, il faut faire... Moi, je prête beaucoup attention. Je regarde, ils transportent des fois 2-3 conteneurs non scellés. Et tu te dis, mais bon, il faut que vraiment devant lui, ça soit vraiment dégagé avant que je ne m'engage. Si ce n'est pas vraiment dégagé, tu t'engages et il ralentit, tu es au milieu du dépassement. Ce conteneur-là, tu ne sais pas si ça va tomber sur toi du côté gauche ou pas. C'est, même jusqu'à la nationale qui continue, vous verrez toujours ce Titan transporter des conteneurs non scellés. Franchement, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, il faut vraiment encourager, attirer l'attention de l'autorité. Que c'est fait vraiment en deuil la société, il faudrait qu'on mette fin. Ça arrange qui? Ça n'arrange à qui profite ces décès? À personne. Donc ce sont des négligences à mon avis. C'est comme vous prenez des camions qui sortent du port surchargés, vous me suivez, très surchargés, ou bien dont la hauteur dépasse la taille normale, 5,50 m, et c'est sur la route après un dégât qu'on constate que ce camion n'était pas dans les règles, alors qu'il a quitté un point où il y a un contrôle. Il est passé sur le pont bascule. Comment se présente ce pont bascule-là au niveau du port? Et c'est maintenant arrivé à... Le dernier drame, c'est Toglekopé.
Oui, à Wazongo,
justement. Où la passerelle a jeté à cause d'un camion dont la hauteur dépassait la norme. En temps normal, on devrait identifier l'erreur depuis pour lui dire non, tu ne peux pas continuer, sinon on va même t'arrêter. D'accord. Puisque même s'il continuait, que ce soit la surcharge ou la hauteur, même s'il continuait, il faut que vous le sachiez. Lorsqu'il sera au niveau de Djerewe pour passer sur le pont bascule, ça va se signaler. La surcharge va se signaler, d'accord. L'excès de hauteur va se signaler. Maintenant, comment ça se fait qu'ici, les gens-là n'identifient pas les erreurs et ces camions sortent pour causer des dégâts.
D'accord, justement, sur la base alors de cette question que Uriel est en train de poser, Jacques, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une négligence ou de l'irresponsabilité dans cette question, parce que ce n'est pas la première fois qu'on observe ça?
Au fait, c'est l'irresponsabilité humaine. C'est l'homme qui est à la base de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse prendre un conteneur qui sort du port autonome de Lomé. Il y a des agents qui sont à ce niveau, qui doivent contrôler la sécurité de ce conteneur. Le conteneur traverse, regardez, je ne sais pas si c'est le contournement qu'ils ont pris, jusqu'à Détikopé, je crois, mais vous voyez qu'il y a un problème. Donc il y a un problème au niveau du port, la négligence même se trouve là-bas. Le conteneur était chargé comment? Et les agents étaient où? Ils n'ont pas vérifié pour voir si ce conteneur-là était ceinturé avant de quitter le port. Mais donc je crois que cette négligence-là, c'est à ce niveau. Et à ce qu'on sache, il n'y a pas un lieu où on charge encore les conteneurs à part le port autonome de Lomé. Ou bien, c'est ça, c'est là-bas. Donc moi, je n'accuse pas les agents de sécurité, mais c'est la responsabilité incombe aujourd'hui au responsable du port autonome de Lomé. S'il y a aujourd'hui une sanction, c'est à ce niveau que les sanctions doivent tomber. Et ceux qui sont chargés, effectivement, de charger, par exemple, ces conteneurs, et que ces conteneurs-là suivent un circuit. Parce qu'un conteneur ne sort pas comme ça. Hein. Le conteneur suit tout un circuit avant de quitter le port autonome de Lomé. Et quel est le circuit suivi par ce conteneur jusqu'à ce conteneur-là ne se renverse au niveau d'Atitikopé. Donc, il y a un problème. Donc, s'il y a vérification à faire, il faut vraiment taper au niveau du port interpeller le directeur du port autonome de Lomé et les engins qui sont chargés de ces conteneurs au niveau du port autonome de Lomé. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas accuser le ministère de la Sécurité ou bien les agents du ministère de la Sécurité, parce qu'ils sont là pour réguler la circulation. Ils ne sont pas là pour vérifier, pour voir si un conteneur était bien ceinturé avant de prendre la route. Moi, je crois que là, il faut vraiment que les autorités du port autonome de Lomé soient interpellées par rapport à cet incident.
Déjà, quand on prend ce fait, c'est encore ce fait triste que nous avons vécu, ou du moins ce que nous avons constaté. On le disait, ce n'est pas la première fois. On se souvient encore du drame de Aguazongo, et même il y a eu une enquête qui a été ouverte, mais finalement, jusqu'à présent, on n'a pas quand même le concret par rapport à cette enquête. Donc, est-ce que ça veut dire que cette fois-ci, il y aura toujours une enquête qui sera ouverte, parce que il y a le mouvement Martin Luther King qui exige quand même une enquête?
Non, est-ce qu'il y aura une enquête qui sera ouverte? Je crains que non. Je crains que non, parce que le samedi, quand cet incident se produisait, la police avait juste fait le devoir de dire publiquement aux usagers qu'il y a un conteneur qui a obstrué la voie, sans dire qu'il s'agissait d'un accident avec mort d'homme. Et jusque-là, il n'y a pas eu un rapport de la police sur cet incident qui a bloqué la voie sur de nombreuses heures de la matinée de samedi, et pour donner également des détails de ce qui s'est passé véritablement. Donc, si la police... C'est vrai, peut-être qu'ils ont fait rapport à qui de droit, mais je pense que le public aussi a droit à l'information et surtout à la vraie information, surtout que nous avons les policiers sur le terrain le samedi matin là et qui avaient donné l'alerte de ce qui s'était passé sans pour autant donner des détails. Donc il a fallu d'autres informations à gauche et à droite, et surtout avec cette sortie du mouvement Martin Luther King, que la plupart des Togolais soit édifié sur ce qui s'est passé véritablement. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que ça intéresse véritablement d'ouvrir une enquête supplémentaire, surtout que depuis qu'on nous avait annoncé l'enquête sur l'effondrement de la passerelle, l'enquête n'a jamais abouti et aucune suite n'a été donnée, malgré le fait que jusqu'en Conseil des ministres, le chef de l'État avait appelé, d'après un communiqué, nous n'étions pas là-bas, d'après un communiqué du gouvernement, que le chef de l'État avait appelé à ce qu'il y ait de la rigueur et que l'enquête aboutisse et constitue les responsabilités. Aujourd'hui, les Togolais attendent encore. Depuis le 13 décembre, ça fait plus de deux mois, pratiquement deux mois, les Togolais attendent sur cette affaire-là. Et après, finalement, rien ne va se passer. Est-ce que aujourd'hui, pour un jeune homme qui meurt, un autre, d'autres qui sont blessés, qui sont admis à l'hôpital, est-ce que l'État va demander l'ouverture d'une enquête? Moi, je suis pessimiste sur le sujet. Parce que ce que j'ai constaté, généralement, sur des drames de ce genre, nous sommes beaucoup plus émotifs. On est généralement dans de l'émotion. Et une fois l'émotion passée, on passe... on passe à autre chose. On passe tout ce qui s'est passé par perte et profit. On passe à autre chose. Et ce qui est véritablement dommage, ça donne... je ne veux pas dire que ça encourage d'autres à faire de pareilles bêtises qui coûtent la vie à d'autres personnes, mais malheureusement c'est le constat qu'on fait. Bon, maintenant, où est-ce que les gens trouvent du courage de mettre des conteneurs, un conteneur sur un semi-remorque, sans véritablement se soucier de bien l'attacher et que le conteneur se détache? Un conteneur, c'est pas quand même un sac, hein. Se détache, tombe sur des Togolais, des humains, les écrase, et des gens meurent dans cette histoire, et on ne dit pratiquement rien. Moi, je ne m'attends pas à une enquête. S'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, bon, voilà. Je dirais que c'est la norme. Et même si on ouvre une enquête, quelle va être la suite de l'ouverture de l'enquête? Quelles sont les sanctions qui sont appliquées? Quelles sont les mesures qui sont prises pour que, justement, on n'encourage pas d'autres à faire pareil? Si on fait dans une gouvernance où il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de bâton, je crois que on va continuer à compter ces drames avec son cortège de morts, d'hommes et de blessés. D'accord. Des gens
perdront leur vie, des gens seront blessés dans leur chair pour toujours, mais rien ne va se passer. Les gens comme ça vont continuer à multiplier ces erreurs, ces bêtises, et la nation continuera peut-être.
D'accord. Gosson, à un moment donné, est-ce qu'il ne faille pas taper du poing sur la table et pour en quelque sorte arrêter aussi ces phénomènes?
Je me sens personnellement interpellé par ce drame. En ce sens que ce matin, j'ai quitté Davier pour arriver au studio à moto. Et des conteneurs, des camions chargés, j'en ai dépassé. Ça voudra dire que je ne suis pas Dieu ni son fils, même si je m'appelle Godson. Ça voudra dire que ça peut m'arriver à moi. Et c'est en ça que je veux répondre à la question de Didier qui se demande d'où est-ce que les gens trouvent ce courage-là pour perpétrer de pareils actes. Ils le trouvent dans le laxisme, dans cette facilité à ne pas sévir, à ne pas prendre de disposition, à ne pas prévenir. Pascal, quand je réfléchis à la chose, je me dis, et si l'autorité sortait un communiqué comme quoi, pour de pareils incidents, hormis la peine et la sanction pénale, le camion impliqué dans cet accident ne sera plus rendu au propriétaire. C'est possible que ça réveille les gens pour que chaque fois que ça va, on doit mettre la clé dans le compteur, je ne sais plus, qu'on prenne comme cette précaution minimale pour éviter de pareilles situations. Parce que c'est tellement facile. Mais je veux préciser une chose. Ça ne pourra jamais arriver à notre président de la République, ni à notre premier ministre, encore moins à notre président de l'Assemblée nationale. Parce que quand un doit passer, la voie est dégagée. Il ne peut pas y avoir de conteneur qui puisse menacer de tomber sur leur véhicule. Pour autant que ce qui arrive aux citoyens ne doit pas les interpeller, Pascal. Eux, ça ne peut jamais leur arriver. J'ai été témoin d'un incident le vendredi dernier. J'en ai encore la chair de poule. J'ignorais qu'au passage de notre président, il ne doit plus y avoir âme qui circule sur la voie. J'avais commis l'erreur de marcher. J'ai failli. J'ignorais même que c'était le convoi qui arrivait. C'était pour cette raison qu'il n'y avait même pas mouche sur le trajet, soit dit en passant. Je veux passer par ici pour demander à nos dirigeants d'anticiper, parce que par rapport à la population togolaise, une personne écrasée par un camion, bon, ou alors un conteneur, c'est un épiphénomène. Mais cette personne, pour ce qu'elle représente pour sa famille, c'est une perte énorme. Donc c'est sous cet angle qu'on doit pouvoir apprécier tout drame qui arrive à tout citoyen dans le pays. Je vais terminer en rebondissant par rapport au drame de Agwezongo. J'ai l'impression, où j'en finis à croire que on se complaît dans le service minimum. Depuis quand est-ce que ce drame-là est arrivé? Mais chaque fois, quand je viens à Lomé ou quand je repars, je vois encore les stigmates. Tout est encore là-bas, comme si c'était il y a 3 jours que le drame est arrivé. On veut mettre combien de mois ou d'années avant de dégager le reste des gravats et redonner et effacer tout ce qui s'est passé là-bas. Tu passes, même si personne, si tu n'as pas été informé, quand tu vois les bétons là-bas, tu vas t'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais combien de temps faudra-t-il pour que tout soit nettoyé? À supposer que ça soit arrivé. Jacques, ne me dis pas exemple que si ça s'était arrivé sur la voie de Lomé de là, ça allait encore perdurer là-bas. Non, appelons un chat dans la politesse, mais dans la vérité.
D'accord.
Ok, mais merci beaucoup. Moi je ne comprends pas. Lorsqu'on parle d'enquête, il y a eu un accident, la police allait faire le constat. Ils ont rendu les résultats du constat. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là-bas. C'est quelle enquête encore? Ou bien je comprends mal.
Peut-on, on te parlera du corps du délit.
Du corps, la victime.
Non. Lorsqu'il y a accident, vous savez comment ça se passe. Maintenant, ce qu'on pourra vérifier, ce sont les documents du camion pour voir si les documents sont en règle pour que l'assurance puisse prendre en charge la famille, la victime et tout ce qui va avec, puisque l'affaire va finir devant le procureur. Donc l'enquête dont on parle, bon, ou bien on va demander voir qu'est-ce qui s'est passé au port autonome de Lomé pour que le camion puisse sortir sans être, sans que les conteneurs ne soient attachés ou scellés. Bon, je doute très fort. Hein. Maintenant, moi, je dirais plutôt, il faut mettre l'accent sur le ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires.
Franchement, il faut bien sûr.
Mais je pense que ce ministère doit jouer un grand rôle dans cela. Puisqu'on parle des transports routiers, et si nous sommes sur la voie terrestre, quand ça se passe comme ça, il faut vraiment que ce ministère prenne des initiatives. Je ne sais pas à la primature qui en a mis à la tête pour coiffer ce rattachement, mais il peut faire quelque chose. Il peut faire que, puisque nous sommes des humains, il suffit qu'on nous dise ne fais pas ceci, tu ne vas pas faire. Nous sommes là pour respecter. Si tu fais, tu sais ce qui t'attend.
Voilà.
Donc, dites-nous, ne faites pas ceci. Et ça va protéger plus d'accord, le citoyen.
D'accord, merci beaucoup.
Parce que pour rebondir par rapport à ce que Muriel a dit, vous savez, quand on parle du ministère des Transports dans un pays, mais attention, c'est vraiment un poste important, parler du ministère des Transports aériens et ferroviaires de notre pays. Et quand vous prenez, par exemple, la plupart de nos routes aujourd'hui au Togo, et quand vous prenez la plupart des stations des véhicules que nous avons aujourd'hui, mais c'est un ministère vraiment important. Je n'ai rien contre la primature. Je n'ai rien contre également le Premier ministre. Mais il faut reconnaître que le Premier ministre est trop chargée. Elle est déjà chargée pour le contrôle de l'action gouvernementale pour pouvoir encore avoir le temps, avoir l'œil dessus le ministère des Transports. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas nommer un ministre en plein temps pour gérer effectivement ce ministère. Regardez, on a eu le drame de Toglé, c'est ça?
À Gouezango.
On vient d'avoir encore un autre drame au niveau de Toglé Kopé.
C'est Toglé.
Vous voyez, donc, Pascal, il faudrait que le président de la République réfléchisse. Au Togo, nous avons des têtes, nous avons des gens bien formés pour occuper ce ministère et faire vraiment un bon travail.
Non, Jacques, nous sommes en transition. Ça fait
quelques
semaines normalement.
Même si c'est une semaine, deux mois, il faut nommer quelqu'un.
D'accord.
Il faut nommer.
Ok, alors nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Alors, Uriel, c'est vous qui nous donnez, bien sûr, le sujet. Vous revenez sur l'hommage au feu président Gnassingbé Eyadema. Et vous écrivez « Hommage au père de la nation, une solennité à la dimension de l'homme ». C'est bien ça?
C'est bien cela, une solennité à la dimension de l'homme. C'est bien cela parce que, vous savez, moi, je ne vais même pas rester dans les critiques, dans les polémiques que je qualifie de non importants, parce que là, la grandeur de l'homme a attiré beaucoup de personnes, a attiré beaucoup de pays. La grandeur de l'homme, tout ce qu'il était, a pu attirer les hommages qui lui devraient être rendus, et c'est ce qu'on a constaté le 5 et le 6. Pour le reste, chacun pourra dire ce qu'il pense. Moi, je trouve que si personnellement, on me posait la question pour toi, qui a été le feu général Gnassingbé Eyadema, je dirais beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Il a été beaucoup de choses. Donc, chacun, en ce qui le concerne, pourra dire sur Eyadema ce qu'il en sait, mais en restant dans l'objectivité quand même, en faisant un effort de rester dans l'objectivité. On ne peut pas nier la grandeur de l'homme lorsque vous voyez pour les 20 ans de son rappel à Dieu, voir des anciens présidents quitter le Mali, quitter le Bénin, quitter le Niger, quitter partout. On n'a même pas voulu citer ceux qui sont venus de l'Europe, lui rendre un hommage. Je pense que le monsieur avait travaillé non pour la prospérité de son pays, mais il a travaillé aussi pour la prospérité de son continent et la paix dans le monde entier. Donc aujourd'hui, la politique étant la politique, c'est normal que chacun donne son opinion. On ne peut dire à personne, toi tais-toi ou bien ce que tu dis est faux ou c'est vrai. Non, ce sont des analyses. Et à travers cela, ça permet à tous les présidents actuels, y compris le président togolais, de mieux faire. Parce que chacun voudra qu'après sa vie, qu'on parle de bien en lui. Chacun voudra qu'après son pouvoir ou bien son règne, qu'on parle de bien en lui. Donc, je pense même que ce sont des choses à perpétuer, à pérenniser, parce que lorsqu'on célèbre l'anniversaire du décès de quelqu'un, ou bien qu'on célèbre même l'anniversaire d'un autre événement pour un individu, cela interpelle tout le monde. Cela interpelle tout le monde. Ah, donc ça veut dire que si je fais du bien, demain moi aussi, on pourra me célébrer comme ça. Si je fais ceci, on pourra... Qui va célébrer l'anniversaire du décès de Hitler? Je ne crois pas. Personne ne pourra même faire la proposition. Il y a la liste, hein, vous pouvez multiplier les noms. Il y a des gens, personne ne peut même penser à eux. Mais ceux qui ont rendu vraiment service à la nation, moi, d'accord, c'est mon opinion.
D'accord, c'est votre opinion.
Il faut leur rendre hommage.
D'accord, c'est votre opinion. Alors, Didier, c'est vrai que quand on s'attarde un tout petit peu sur l'anniversaire alors du DCL, 20 ans, avec tout ce qui a été organisé en pompe, finalement, on aurait cru, comme le diraient d'ailleurs certains observateurs, que c'est plutôt les 20 ans alors du pouvoir du président de la République, Faure Gnassingbé, qui est célébré.
Vous savez, au Togo, nous avons le malheur de ce que des événements se ressemblent. Enfin, sur le cas d'espèce, c'est des événements qui se ressemblent. Comme on parlerait du 13 janvier, de quoi on cru parler pendant longtemps de libération, pendant que d'autres parlaient d'assassinat, jour d'assassinat de quelqu'un, de quoi pendant longtemps avait célébré ce jour-là comme un jour de libération nationale. De la même façon qu'on parlera de la date du 5 février, le 5 février pour les uns, c'est le décès de Gnassingbé Eyadema, mais pour d'autres, le 5 février, c'est le jour où a accédé au pouvoir le chef de l'État actuel. Donc, comme Uriel le dit, chacun apprécie par rapport à l'angle qu'il a choisi et surtout du côté où il se trouve pour regarder la scène. Donc, mais comme je dis, qu'au Togo, nous avons le malheur de ce que nos dates sont assez polémiques et les événements, enfin, qu'on prend un événement dans ce contexte-là, il vaudra le même événement dans l'autre contexte. Donc, malheureusement, on ne peut pas séparer Gnassingbé Eyadema de Faure Gnassingbé, même si lui a été lui et que moi est moi. Malheureusement, on ne pourra pas les séparer parce que, quoi qu'on dise, Faure Gnassingbé reste le fils de son père. Et donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est également le successeur de son père. Et donc, quand on célèbre les 20 ans de la disparition de Gnassingbé Eyadema, il se trouve que, après son père, c'est lui qui a pris sa place. Et c'est lui qui gère le pays à sa place. Donc, de quoi on pourrait dire que il célèbre plutôt ses 20 ans au pouvoir. Bon, officiellement, on nous a dit que c'est les 20 ans de la disparition de l'ancien président. Comme j'ai dit, on pourra multiplier des exemples. Il y aura toujours des polémiques parce que c'est ce que, malheureusement, nous avons voulu que notre pays soit un pays où il y a beaucoup de polémiques, surtout quand on vient en matière de gestion publique du pays, de questions républicaines. On n'a jamais voulu les trancher. Nous posions les questions et nous disions ici, autour du 13 janvier, nous disions ici dans ce studio qu'on aurait pu avoir un cadre national où on rend des hommages aux anciens présidents du Togo, parce que jusqu'à preuve du contraire, Gnassingbé Eyadema n'est pas le seul. Donc on aurait pu trouver un moyen où c'est quelque chose où on fait pour tous les anciens présidents du Togo, peut-être à des intervalles réguliers, soit 10 ans, soit 5 ans. Si ça avait été le cas, je pense qu'il y aurait moins de polémiques autour de la célébration des 20 ans de Gnassingbé Eyadema. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Le président de la République actuelle est le fils de celui qu'on célèbre. même jusqu'à l'extrémité de la terre, cela aurait pu être fait. Uriel disait qu'on n'a pas célébré certains, c'est parce que peut-être ces gens n'ont pas eu de fils ou d'enfants, ou que ces gens-là ou leurs enfants n'ont pas eu à accéder au trône. Donc, on ne peut pas présager, on ne peut pas prédire ce qui n'a pas été dans les mêmes conditions.
D'accord.
Comme on dirait en physique, les conditions normales de température et de pression. Donc ici, nous faisons avec. Ça a été des hommages à quelqu'un qui a géré le pays pendant 38 ans. Comme il le dit, on ne peut pas dire que Gnassingbé Eyadema n'a rien apporté au Togo.
D'accord.
Il a géré le Togo pendant 38 ans et on voit aujourd'hui des preuves de sa gestion dans le pays de façon physique, palpable, un peu partout. Donc, hommage à lui, ça a été rendu par la nation. Moi, je ne trouve aucun problème à ça.
D'accord. Alors, oui, Gosson, déjà quand on écoute Didier par rapport à cette date polémique dont il parle, est-ce que finalement, ça ne nous donne, enfin, ça ne porte pas un coup dur à la réconciliation tant clamée?
Bon, tu sais, pour être honnête avec toi, je suis mal à l'aise pour répondre à la question. Toutefois, je vais m'y essayer. D'abord, pas ceci. J'ai personnellement, moi et ma famille avons un agréable souvenir de Gnassingbé Eyadema.
Agréable.
Oui, okay, là, je l'assume. C'était lorsqu'un de ses ministres avait escroqué, je pèse bien mes mots, des jeunes, j'en faisais partie avec mon petit frère, leur faisant miroiter le fait qu'ils va les faire quitter le pays pour l'Europe. Et donc ma famille a trimé, a rassemblé les 2 millions qu'on a remis à ce ministre-là. Mais il n'y a jamais été question de voyage. Il n'y a plus jamais été question de voyage. Donc, ma mère, toute menue qu'elle est, mais elle est teigneuse. Donc, finalement, on a demandé une audience à voir le chef de l'État. Moi, je n'y étais pas. Elle m'avait remplacé. Figurez-vous que de tous ceux qui étaient là, quand parole avait été donnée à ma mère, elle avait dit les conditions dans lesquelles elle a rassemblé cet argent et pourquoi elle voulait que ses enfants quittent le pays. Papa Nyassa a dit, madame, toi, je vais te payer à la fin. Et effectivement, à la fin, on lui a remis ses 2 millions. Donc, quoi qu'on dise, ça, c'est pas politique. C'est personnel. Quand je pense à l'homme, je ne peux pas faire semblant de ne pas penser à cet acte-là. Il n'était pas obligé de rembourser ça à notre famille. Mais il l'a fait. C'était bon. Mais sur le plan politique...
Et ce ministre, c'était qui?
Et le gars qui chante là, il n'est plus.
Il fut un ministre.
Donne-moi
la sélection.
Allez-y. Sur le plan politique, c'est ce que Uriel a dit. Chacun pourra apprécier. Et personnellement, je veux me réserver le droit de ne pas me prononcer sur sa gestion pendant ces 20 ans. Mais pour se souvenir de Gnassingbé Eyadema, on n'a pas besoin nécessairement que ce soit à la date, cette date si polémique du 5 février, je crois, là, pour le célébrer. Si on veut le célébrer, surtout du point de vue familial, et même dans le pays, on peut toujours trouver des dates. Il y en a plein. Bref, je veux m'en tenir à ça.
D'accord. Oui, mais Jacques, finalement, quand on prend le bilan de 38 ans hein, de pouvoir de Gnassingbé Eyadema, du général Gnassingbé Eyadema, et également quand on prend aussi les 20 ans de gestion alors de fond Gnassingbé, finalement, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire?
Je crois que, comme dirait un étudiant, c'est recto verso. C'est ça la gestion. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une continuité. Si vous pouvez, bon, en termes faciles, on pourrait parler d'intercalaire pour la classe de 4e ou 3e ou autre. Quand vous faites un devoir, à un moment donné, la feuille que vous avez, si ça, vous prenez une autre feuille. Donc c'est pour vous dire que c'est une continuité. Parce que quand vous prenez les réalisations du feu général Gnassingbé Eyadema, peut-être à quelques exceptions près, bon, il faut reconnaître que les bases que feu général Eyadema a posées, c'était des bases solides au niveau des infrastructures. Vous prenez par exemple l'hôtel 2 février, vous prenez l'hôtel Sarakawa, vous prenez l'hôtel Le Bénin, il faut reconnaître, bon, Le Bénin, on me dira que peut-être que Sympa et Adema, mais c'est Sylvanus. Mais
c'était la paix.
La paix, ça
il y a
faut.
Les hôtels.
Et puis, vous prenez le palais des congrès et autres. Et Yadema, quand même, a posé des bases. Et la plupart de. Aujourd'hui, quand vous prenez l'administration et autres, ça, il faut reconnaître que le monsieur, quoi qu'on dise, a fait beaucoup de choses. Donc, parlant de la gestion de M. Faure Gnassingbé, comme je l'ai dit, c'est une continuité. C'est vrai que quand M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, il faut reconnaître qu'il y a certains qui ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, quand même, il a réussi à faire parler quand même ces gens. Et certains étaient étonnés qu'on dise qu'on puisse croire que le fils de Sylvanus Olympio puisse rencontrer le fils du général Yadema. Si on vous disait ça 20 ans en arrière, vous n'allez pas croire. Et cette politique également d'ouverture envers effectivement certains, parce qu'il y en a qui étaient dans la diaspora, qui n'étaient jamais revenus, mais aujourd'hui sont revenus. Quand vous voyez aujourd'hui l'administration, la plupart de ceux que nous voyons n'étaient pas au pays, ils étaient à l'étranger. C'est quand M. Faure Gnassingbé a pris le pouvoir que certains sont revenus. Donc, quoi qu'on dise, il faut reconnaître que le monsieur, quand même, a réussi à faire un maillage au niveau, effectivement, de l'ancienne garde et de la nouvelle garde. D'aucuns diront que la nouvelle garde, c'est pas l'ancienne garde, et sont toujours là. Mais il faut reconnaître qu'une ouverture a été faite. Mais ce qui m'a marqué, Pascal, au cours de la célébration de ces 20 ans de la disparition du général Yadema, c'est la décoration faite à la première dame. C'est-à-dire que Madame Badagnaki. Et j'ai vu une image qui devait être complète par rapport si, parce que j'ai vu la plupart des enfants, vous voyez, ça devait être vraiment un tremplin. S'il y avait l'autre là aussi,
qui
est en prison, si l'autre là aussi était là, vraiment l'image là sera tellement
simple.
On a dit l'autre.
Voilà, s'il devait être là, l'image là sera vraiment l'image du siècle. Parce que je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'était vraiment émouvant de voir la plupart de ces enfants qui étaient là. Mais j'ai cru voir également Rock dans les images. Donc si Pacha aussi était là, je crois que ça devait vraiment être une bonne chose. Donc je crois que ce n'est pas encore tard. Il faut toujours militer pour que cela se fasse. Pour qu'on puisse sentir effectivement la symbiose, une relation familiale entre ses enfants et le défunt Gnassingbé Yadema.
D'accord. Sur le sujet, par rapport à cette distinction à l'ancienne première dame, et il y a une autre titre bien sûr là-dessus, distinction Badagnaki Gnassingbé élevé à la dignité de grand officier de l'ordre du Mono. Alors, je voudrais qu'on quitte le sujet et qu'on s'intéresse au sénatorial. Uriel, c'est vrai que pour ce qui concerne même d'ailleurs c'est les campagnes de sénatoriales, ça ne se sent pas en tant que tel, et ça se comprend bien sûr parce que le corps électoral, on le connaît très bien, ce n'est pas au suffrage universel. Alors finalement, quand on prend ces activités des sénatoriales, puisque c'est le 15 février, et on doit s'attendre concrètement à quoi par rapport même à cette campagne qui se déroule avec sans affluence?
Non, quelle affluence on devrait avoir? Il s'agit des grands électeurs. Comme tu l'as expliqué, ce sont des grands électeurs, ce sont les conseils régionaux et municipaux qui vont voter. Donc, on n'a pas besoin, on connaît les conseils municipaux. Tout à l'heure, si on peut même par un réseau social parler, un parti peut faire sa campagne à travers un réseau social. Il crée un groupe WhatsApp, par exemple, il met tous les conseillers de son parti là-bas et il parle en tant que chef du parti. Il dit, voilà les consignes que je vous donne, point, c'est fini. Il peut même pas descendre sur le terrain. Ce sont les grands électeurs. Tu vois, tout ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, sur le terrain, en réalité, ce sont des scénarios, ce sont des simulations. Au fait, cette campagne n'a pas besoin de budget, de dépenses ou quoi que ce soit. Non, vous êtes conseiller municipal d'un parti politique. Vous êtes censé respecter les consignes de ce parti politique. Il n'y a rien à faire.
puisque c'est ce parti politique qui vous a proposé, on vous a élu, vous êtes là, vous siégez, vous ne pouvez pas faire le contraire de ce que le parti dit. Donc en réalité, c'est la figuration, c'est le figuratif qu'on fait juste pour dire qu'on est en campagne électorale. On n'a même pas besoin de mettre le carburant dans un véhicule pour monter au nord pour dire qu'on va en campagne. Hein. Si les gens ont cet argent, je les en supplie, il y a des villages qui ont besoin de forage et des pistes. On peut dédier cet argent-là à cela en attendant. Sinon, ces campagnes, ce sont les grands électeurs. D'accord. Ils n'ont pas besoin de dépenser. Mais si vous me donnez 30 secondes seulement par rapport à la question que vous avez posée aux autres sur la gestion de Fony Asimbe, moi, j'ai compris une seule chose. Fony Asimbe, dans sa gestion, c'est l'homme de l'intégration qu'on ne peut pas maîtriser. Vous comprenez quelqu'un, par exemple, lorsqu'il s'agit des mutations, voyez, suivi progressivement le changement de la COSA, par exemple. Voyez, le gouverneur, avant, très difficile qu'on vous dise, même s'il n'y avait pas le gouverneur dans le temps, qu'on vous dise qu'on nomme un gouverneur qui n'est pas de là, qu'on nomme un préfet qui n'est pas de là. Mais c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, c'est la réalité.
D'accord, okay,
on pense que c'est pour la...
Merci, Uriel. Oui, Gosson, quelle est la configuration possible du Sénat quand on suit ses activités de campagne sénatoriale?
Bon, si ceux qui se disent indépendants ou qui vont au nom de partis autres que unis n'osent pas se prosterner, je pèse bien mes mots, ne vont pas se prosterner devant les conseils régionaux et municipaux, et d'abord devant le chef du parti uni, pour quémander de sièges, je ne serais pas surpris que le Sénat soit à 100% uni.
D'accord. Disais, vous avez aussi la même impression?
Ben moi, je t'avais dit que la participation d'un certain nombre d'acteurs politiques outre que unir à ces élections sénatoriales, c'est une perte de temps. Je l'avais déjà dit à ce studio, je ne change pas d'avis sur des sujets pour lesquels je suis convaincu. Et parce que moi, je ne vois pas, au vu des derniers développements que nous avons suivis, je ne vois pas des conseillers unis en train de voter un monsieur comme Tchassona Traoré, par exemple. Je ne crois pas qu'ils aient des consignes comme ça. Si des choses comme ça se passent, bah, peut-être que ça confirmerait des thèses et des informations qui circulent dernièrement. Comme il le dit, des gens se seraient prosternés et des histoires comme ça. Mais si on suit la logique électorale politique et politicienne, vous allez voir les conseillers unir, conseillers municipaux, conseillers régionaux unir, vont voter majoritairement unir. Et peut-être que, bon, s'ils laissent un seul sénateur parmi lors de l'élection à un groupe de l'opposition ou voilà de ceux des participationnistes, ce sera un miracle. Donc peut-être que d'autres propositions que des gens font de ce que le chef de l'État nomme sur son quota de 20 sénateurs, peut-être qu'on pourra nommer d'autres acteurs qui seraient assimilés à l'opposition ou à d'autres groupes. Mais dans une logique pure électoraliste, je ne crois pas que des gens, pas seulement des militants, mais des conseillers régionaux et municipaux unir, élire des gens de l'opposition lors de ces élections-là, je ne crois pas.
D'accord.
Peut-être que je serai démenti à l'issue des résultats, et là, ce serait véritablement un autre Togo qu'on nous présente.
D'accord. Oui, ben Jacques, déjà, quand on prend le fait que des gens, il y a certains quand même qui parlent alors de jeux de couloir et de négociations, est-ce que cela ne va pas vraiment changer la configuration?
Dans quel sens?
Ah ben, peut-être que quand il y a négociation, sûrement que ça veut dire qu'il y a certains quand même que nous avons vus qui sont alors de l'opposition qui rentreraient vraiment dans ce Sénat.
Par élection.
Par élection, bien par nomination.
Par élection.
Bon, en fait, Pascal, vous savez, dans la vie, il faut reconnaître que toujours, quand un riche mange quand même, sûrement qu'il y a des miettes qui tombent souvent. Ça peut arriver. Et ne soyez pas peut-être surpris que les miettes qui tombent, que le pauvre puisse en prendre. Et le pauvre vous dira qu'il a participé aussi à la table du roi. Mais c'est les miettes qui sont tombées. Mais il vous dira que c'est la table du roi.
Qu'est-ce qu'il a mangé?
Oui, j'ai dit, il vous dira qu'il a participé à la table du roi. Donc, c'est pour vous dire quelque part que...
Ce sera peut-être des miettes laissées tomber.
Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat. Et nous avons discuté alors de beaucoup de sujets, bien sûr. Et donc, nous allons leur donner la parole sur le 90, 86, 35, 35, 91, 36 ou en 315. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui.
Allô? Bonjour Pélé.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
J'espère que vous avez bien passé le week-end.
Oh, proprement.
Dieu merci. Allez-y.
Ok, bon, salut le plateau. Je voudrais parler un peu de les pères de l'indépendance et de la nation. Bon, moi, ce que je pose comme question, si l'autre n'a pas eu l'indépendance, l'autre sera père de la nation. Et quand celui-là est devenu père de la nation maintenant, pourquoi il ne fait pas ou bien ne reconnaît pas le père de l'indépendance? Maintenant, pour juger les deux par leurs actes, leurs premiers actes posés au Togo, que nous tous nous connaissons, notre pays, ils ont posé chacun un acte qui est la construction de l'hôtel de la paix et l'hôtel de Bénin. Voilà l'image aujourd'hui de l'hôtel, voilà l'image des deux hôtels et les juger, que leurs œuvres les accompagnent. C'est tout. Voilà l'état de l'hôtel de Bénin et l'hôtel de la paix. Si nous prenons l'hôtel de Bénin, que le père de l'indépendance dont on parle a construit, il a dit, il a le Bénin, c'est-à-dire, prenez soin de ça. Je pense que quand il est demain arrivé, il a pris soin de ça. Il a fini à faire de prendre soin de ça. Et je dis, et l'hôtel de la paix doit dire que c'est là, le Togo de la paix. Où est l'image de l'hôtel de la paix? Regardez l'image de l'hôtel de la paix pour juger les deux. C'est tout. La nature a sa loi. Point barre. Merci.
D'accord, merci Pélé pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibiti. J'espère
bonjour,
que vous
avez... mon fils Gordia.
Non, mais...
Oui, il n'est pas là.
Non, il n'est pas là. Vous voulez parler d'Ambrose?
Celui qui a parlé de punition, là.
Oh, Didier?
Non, Edidon.
Dawson.
Bonsoir.
Non, non, mais... Oui,
bonjour.
Mais, bonjour, allez-y.
Avec l'autre, comment il s'appelle, mon fils de Fango. Vous savez, comme il a dit, Isidore, la punition...
C'est pas si vite, Isidore n'est pas venu aujourd'hui, Isidore c'est mardi qu'il vient.
Bon, attendez, celui qui a parlé des accidents, qu'on doit retirer les véhicules, c'est vrai, il faut une punition, il n'y a aucune institution, même que Dieu, il y a la punition. Quand quelqu'un meurt, il faut punir. Deuxièmement, perdre la nation, perdre l'indépendance. Est-ce que c'est ça qui doit diviser les Togolais? Cherchons ce qui peut avancer. Les deux, le président Olympio, paix à son âme. Le président Yadema, le général, il est mort, paix à son âme. Les autres, Kruski, Miati, qui sont partis. Faisons ou bien faites les politiciens, les Togolais. Faites ce qui peut avancer les Togolais. Cela, ça ne peut que diviser les cuites, les progrès, les ANC, les choses. Moi, c'est ce que je recommande aux Togolais. Au Ghana, vous voyez, Rolling, ce que Rolling a fait. Est-ce que les Togolais, Ghanais, ils sont divisés? Copions les autres, soyons nous-mêmes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Je salue la sortie du mouvement Martin Luther King concernant ce drame, mais à chaque ouverture d'enquête, il va falloir qu'on sache qu'il y aura plus alors de fermeture. Merci, c'est André qui nous écrit depuis Dakar. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Yohannes.
C'est Yohannes, voilà, allez-y.
Je veux principalement intervenir sur cette affaire d'accident.
Oui, allez-y.
Vous savez, au temps de Yac, cette affaire des gros camions, des conteneurs, c'était depuis le temps de Yac. Et il a été reçu plusieurs fois par Assad Gawo dans cette émission. Moi, je fais partie de ceux qui disaient, alors que même au départ du monsieur de son poste ministériel, beaucoup on dit qu'il regrette parce qu'il faisait du bon boulot, patati patata. Alors que moi, en son temps, je faisais partie de ceux qui disaient que il ne suffit pas de venir faire de grosses annonces. Le monsieur nous a sorti dans ce pays une annonce comme quoi les gros camions ne vont plus circuler de telle heure à telle heure. Jusqu'à ce qu'ils ne partent, cette affaire n'a jamais été respectée. J'avais dit ici sur 2037 qu'on se lève le matin pour aller au boulot. Ce sont les gros camions qui viennent disputer la route avec nous. Et c'est resté tel quel. Le nouveau ministre est venu. On se limite à une sortie de communiqué quand il y a tel accident. Actuellement, nous sommes en train de parler. Vous circulez dans la ville. Vous allez voir des policiers en train d'arrêter des gens qui n'ont pas porté de casque. Depuis que cette affaire est sortie, moi j'ai toujours dit que même les journalistes ont dit comme quoi c'est parce que nos autorités sont soucis de notre vie, c'est pourquoi on a obligé les gens à porter des casques. Et même lorsque les policiers arrêtent des gens dans la circulation, c'est parce que nos autorités sont soucis de notre vie. Et moi j'ai toujours été contre ça. Parce que quoi? Je me dis que quelqu'un qui refuse de porter le casque met à vie en danger sa propre vie. Alors que ceux qui mettent en danger la vie des autres, on les laisse libres. Vous n'allez jamais voir un policier arrêter quelqu'un pour effet de vitesse. Arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas, il a embarqué un conteneur non attaché. Vous n'allez jamais voir ça. Tous les jours, c'est porte de casque, c'est porte de casque. Mais on dit que nos autorités font tout pour limiter le nombre d'accidents. Jusqu'à quand? Merci.
D'accord, merci beaucoup, Yohannes, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé.
Par rapport à la CEDA qui s'est passé sur la voie numéro 1, tout bien?
Oui, oui.
C'est ça, non?
Oui, c'est à Tomblé.
Je peux dire que ça fait la troisième fois dans 3 ou bien 2 mois. Après la passerelle, il y a ce qui s'est passé à Déticopé. Et puis on voit la suite. Ça veut dire que c'est la responsabilité de nos autorités. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire, quand on parle de la sécurité, qu'un camion quitte le port, la police a pris de l'argent là-bas et a fait démarrer le véhicule. C'est la police qui suit la sécurité de la chose et ça peut passer jusqu'à aller à Saint-Cassé. La affaire de ceinture, là, c'est le rôle de la sécurité. C'est le rôle de la sécurité, c'est pas le rôle des douaniers. C'est le rôle de la sécurité. Mais si la police a pu laisser ce camion quitter, il a pris de l'argent. C'est comme ça, le Togo. C'est que il faut que le président fort tape sur la table de dire que l'impunité, c'est trop.
D'accord.
L'impunité, c'est trop. Il D'accord. faut qu'il contrôle le pays. C'est tout.
D'accord, merci beaucoup Pélé. Vous avez été largement compris. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Patrick. Comment vous allez?
Bien, merci à vous.
Ça va aussi, par la grâce.
Je salue les autres confrères aussi. Je vais revenir sur 3 points. Le premier, je pense que M. Djibouti l'a si bien dit, mais sauf que je voulais exhorter les hommes en particulier, puisque les deux cas ne sont pas bons, mais si l'homme abandonne le foyer, c'est plus grave que si la femme l'abandonne. De grâce, quel que soit ce qui adviendra, je pense que l'homme doit tenir dur. Et si dans la belle famille, ils ont réglé sa fatigue, faut pas que l'homme abandonne. C'est la femme. Si le pire devait arriver, c'est la femme qui doit abandonner le foyer et non l'homme. Le second point, pourquoi ne pas avoir des checkpoints à la sortie de la ville de Lomé? Par exemple, sur le tronçon Lomé à Néron, après
Badida ou à Fébouzou, pourquoi ne pas avoir un checkpoint à Gouet ou vers Tocbekopé, à Dédougomé, vers Zandera, à la sortie de la ville de Lomé, dans les banlieues là. Pourquoi ne pas avoir des checkpoints pour pouvoir contrôler les charges pour éviter ce que vous venez de dire? C'est anormal. Alors nous parlons de dire encore que voilà des conteneurs qui tombent sur des gens, c'est pas bien. C'est pas bien. Comme ça, au moins, non seulement que ça va contrôler ces chargeurs-là, mais c'est pour la sécurité aussi.
D'accord.
Voilà.
Patrick,
et troisième pour terminer, et pour terminer, comme vous avez parlé aussi de la décoration, ce qui s'est passé la dernière fois au niveau de Cara, là, je pense que c'est Jacques ou bien quelqu'un aussi, la cité qui voulait voir peut-être Pacha à cet événement. Mais à mon niveau, moi aussi, je souhaiterais voir, par exemple, le chef d'État d'alors, le chef d'État-major d'alors, je pense que c'est Zakari Lanza, parce que suite à la détention de Yadema, le pire aussi pouvait arriver. Mais étant le commandeur de l'armée à cette époque-là, il a su éviter beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses aussi pouvaient arriver. Mais le gars a su rassembler ces éléments et ça s'est passé dans la paix. D'accord. Donc, je pense qu'il serait quand même décoré.
Merci beaucoup, Patrick. Merci. Je pense que Patrick, c'est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce lundi. Et je lis rapidement cette réaction d'un auditeur. Il faut renforcer le contrôle technique des véhicules, mettre un accent sur les contrôles routiers et sanctionner en cas d'irrégularité et voie saisie des véhicules. Les amendes ne doivent pas aller dans la poche des policiers, mais dans le trésor public. À Cotonou, quand tu vois l'équipement de la police de la route, tu as même peur de conduire un véhicule en mauvais état. Zéro tolérance et pas de taméa. Et c'est Maglibé depuis la Belgique qui nous écrit. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce jour. Uriel, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité. Réaction?
Plusieurs réactions. Je commence par le dernier auditeur qui est intervenu.
C'est Patrick.
Patrick, qui s'est intéressé au sujet de Jacques. Je pense que j'ai réfléchi encore sur le sujet. Vous savez, c'est très simple.
Tu veux fuir aussi, toi.
Attends. Justement, c'est cela. Vous savez, un homme qui quitte sa femme, c'est qu'ils sont en location. S'il a acheté le terrain, il a construit, il a les titres fonciers, il quitte sa femme, il laisse la maison à qui? Non, c'est ça aussi. Vous ne pouvez pas acheter un terrain construit, avoir votre titre foncier, toutes les responsabilités, et à cause d'un problème, vous quittez, vous laissez votre femme et les enfants. Je ne crois pas. Ça passe. Vous savez, celui qui parlait de la décoration du général Zakari Nandia, non, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Hein. Ce n'est pas toutes les décorations qu'on rend publiques ou qu'on fait ceci ou cela. Il y a des choses qui dépassent même des décorations publiques. Donc, pour ça, il n'a qu'à être à l'aise que ceux qui ont rendu service à la nation, mais le premier responsable ne peut jamais les oublier. Ce n'est pas lui et moi. Hein. Nous, c'est autre chose. Donc, pour ça, il n'a qu'à être tranquille. On a vu des gens qui ont été honorés, qui ont vraiment été respectés par des discours et tout, mais on n'a pas rendu ça public. Ce n'est pas ce qui s'est rendu public qui est considéré.
D'accord. Jacques?
Non, je crois que Uriel a résumé ce que je voulais dire, mais je voulais une fois encore interpeller la régie des eaux. Hein, la régie des eaux. Au niveau de...
Ce n'est pas encore réglé.
L'eau a toujours des problèmes. Au niveau d'Adidogomé, jusqu'à ces environs-là, l'eau a toujours des soucis à ce niveau. J'interpelle une fois encore le ministre de l'Eau et le directeur de la Régie des Eaux de revoir cet aspect. On nous avait dit que non, ce serait qu'un temps, mais ça perdure, Pascal. Ça perdure et c'est difficile de consommer cette eau-là. C'est un peu difficile que le ministre de l'Eau et le directeur de la Régie des Eaux puissent revoir effectivement cet aspect-là.
Et justement, il faut vraiment que les premiers responsables arrivent à trouver une solution à cela. Et puisque vous en avez parlé même d'ailleurs dans nos émissions antérieures, oui, Didier.
Je crois que Papa Sibiti disait qu'il faut que nous trouvions un moyen de laisser derrière nous des choses qui nous divisent pour véritablement voir ce qui avantage les Togolais et essayer de conduire le pays vers cet idéal-là. Et je crois fondamentalement que ça fait partie d'ailleurs de l'essence même de nos interventions ici, c'est que c'est pas des interventions pour condamner quoi que ce soit ou pour critiquer quoi que ce soit, mais nous devons travailler à sortir du carcan, des divisions, des déchirements, parce que après chacun trouvera forcément quelque chose à dire. Mais si nous normalisons la vie publique, si nous trouvons un cadre normatif pour la vie publique nationale de la République togolaise, je pense qu'on sortirait petit à petit de ces divisions qui nous ont fait tellement du mal et sur lesquelles nous nous concentrons tellement et qui font que, au lieu de ce que nous travaillons pour que notre pays se développe, quelqu'un a parlé dans les interventions de prospérité, au lieu de ce que notre pays aille vers la prospérité, nous tergiversions sur les histoires qui nous divisent beaucoup plus. Certains sont assez nostalgiques du passé récent et d'autres sont plus nostalgiques du passé lointain. Et finalement, personne ne s'occupe de l'avenir. Et c'est pour ça que Jacques aurait pu parler des problèmes d'eau. Moi également, je peux parler des problèmes d'eau. Dans mon village là-bas, là, mes parents sont en train de souffrir pour trouver ne serait-ce qu'un seul bidon d'eau actuellement pour boire. Et la seule prière que les gens de Couvée sont en train de faire actuellement, c'est qu'ils puissent commencer par pleuvoir afin que leur problème d'eau puisse être résolu. Mais cette affaire-là, on en parle depuis des années, depuis même avant la mort de Yadema. Mais vous imaginez qu'on a beaucoup plus de problèmes plus réels dans la nation qu'on n'arrive pas à régler, mais on tergiverse sur des choses qui nous divisent encore.
Ok, merci beaucoup. Oui, Gosson.
Oui, c'est, non pas pour répondre à Uriel, mais il existe des situations, si ce n'est pas sur le continent africain, ailleurs, où suite à des procès consécutifs, à des divorces, on prie l'homme de vider la maison au profit de la femme et des enfants.
Aux États-Unis.
Quand bien même, c'est l'homme qui a construit. Quand c'est tranché, c'est tranché. Pour terminer, moi je ne parlerai
pas. Là, c'est pas la fuite de l'homme, c'est différent.
Voilà.
L'homme n'a pas fait. Effectivement, oui.
Je ne parlerai pas de normalisation de la vie publique, mais de moralisation de la vie publique, surtout au Togo.
D'accord.
Je vais dire par là, par exemple, quand tu passes et tu vois un policier poser un acte, ailleurs ça se fait. Si ça t'embarrasse, tu vas vers ce policier pour lui demander pourquoi tu as fait ça. L'habit qu'il porte, le salaire qu'il prend, c'est la participation de nous tous. C'est pas que tu vas l'embêter, mais tu veux comprendre une situation.
D'accord.
Le jour où ils sauront que tout ce qu'ils posent comme acte sur la voie publique, ils peuvent être interpellés. Je pense que le Togo sera, il fera mieux vivre.
D'accord.
Gosson, merci. Je crois que les normes peuvent nous permettre demain de forger notre morale à nous.
D'accord. Jacques et Didier parlaient tout de suite alors de problèmes d'eau, bien sûr. Et il y a quand même la députée Gabi Ayele qui apporte également des solutions aux populations à travers la construction même d'ailleurs des forages dans certaines localités. Le samedi dernier, c'était plutôt à Batalanzo. Et nous reviendrons bien sûr sur le sujet puisqu'il y a beaucoup de localités dans lesquelles ça a été fait. Il y a Zobégan, Melikdoumé, Koudanakopé et également dans d'autres localités telles que Agbodan et Bodjomé. Nous reviendrons certainement sur le sujet demain.
Merci.
Justement, courage à la députée. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Uriel, Enyang, Jacques. Merci à toi, Didier. Merci. Gosson, merci. Merci à vous qui nous avez écoutés et merci à vous qui nous avez aussi appelés pour votre contribution alors à ce débat. Nous sommes à la fin. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.